Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Bonjour les petits curieux.
Bonjour et merci Christelle. Et ben la curiosité, c'est le rendez-vous de ceux qui aiment apprendre en s'amusant, se cultiver dans la bonne humeur, comme chaque jour avec Thomas Hugues. Bonjour Thomas.
Bonjour Anaïs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, vous le savez, on est ensemble jusqu'à 15h. Alors, deux thèmes de curiosité. Tout à l'heure, on vous propose le meilleur de l'humour involontaire. Tiens, si vous voulez un exemple, j'ouvre ce bouquin de l'humour involontaire, page 91, c'est les perles de l'assurance. Mon pare-brise a éclaté sur l'autoroute du Nord, j'ai dû gober des mouches pendant 50 km avant de trouver un garagiste ouvert qui consent à réparer les dégâts. J'en ai une autre, toujours l'assurance, c'est où c'est ? Ah oui, je me suis foulé le poignet en sucrant des fraises. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on va raconter tout à l'heure avec cet humour involontaire, ce sera vers 14h30.
Et si vous gobez des mouches, on ne sait pas ce que ça donne sur l'intestin, tout de suite dans la curiosité, le charme discret de l'intestin.
RTL. L'intestin possède tout un réseau de neurones connectés entre eux et avec le cerveau.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout le monde sait qu'il y a des neurones dans le cerveau. Mais la présence de cellules neuronales dans l'intestin est une découverte assez récente.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Thomas, les curieux, si je vous dis Methanobrevibacter smithii bifidobacterium infantis ou Acarmantia mus. Ah, oh, Thomas, aidez-moi.
Mucinifila.
Merci.
Vous l'avez fait. Bravo.
Vous croyez que je vais vous parler d'Harry Potter? Eh bien, que nenni, en route pour l'intestin. Parce que le corps humain n'est pas exclusivement composé de chair, de sang, d'os et de muscles. Non, il y a aussi des bactéries, des virus, des champignons.
Donc c'est tout ça, la Methanobrevibacter,
voilà,
etc. C'est des bactéries, c'est tout ça.
Je ne redirai pas. Hein. Ça, c'est des bactéries, donc, et leur maison, c'est l'intestin qui est un vrai écosystème. Et c'est Dorothée Vatinel qui va nous raconter tout ça. Bonjour, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Microbiote à la Cité des Sciences du 4 décembre. Là, ça vient d'ouvrir, au 4 août 2019. Donc, on a plein de temps pour aller voir cette très belle exposition. Alors, imaginez Dorothée, je suis une pomme ou je suis un abricot. Thomas me croque, j'atterris donc dans sa bouche. Que se passe-t-il ?
Ça commence bien.
Oui, je vais essayer de faire preuve d'imagination. D'abord, félicitations, vous êtes une très belle des fibres alimentaires, donc bien choisies. Alors, que se passe-t-il ? Et bien d'abord, plus on va vous croquer et mâcher, plus votre salive, de la salive va être produite. Et ça tombe bien parce que dans la salive, nous on l'appelle une vraie armoire à pharmacie, il y a beaucoup de choses dans la salive et notamment des enzymes digestives. Alors vous avez donné quelques mots scientifiques, je vais aussi un petit peu en donner. Il y a l'alpha-amylase qui commence à digérer les glucides dans votre bouche. Et après les repas, ça aide, elle aide aussi cette enzyme à dissoudre les restes qui sont sur les dents. Et puis dans votre salive, il y a aussi la lipase linguale qui, elle, dégrade les petites parties de lipides. Donc la digestion commence déjà dans votre bouche grâce à cette salive.
Donc plus on mastique, mieux c'est, hein, si j'ai bien compris ce que vous nous dites.
Exactement. Ouais. Et notamment quand vous mangez des fruits ou des légumes crus, bah, ils sont plus durs à mâcher et tout ce travail de mastication va vous permettre de produire davantage de salive, donc c'est très bien.
Alors, il se passe combien de temps entre le début du trajet,
vous
le
avez
moment
croqué
où
la pomme,
je
demain,
croque
hein.
la pomme ou l'abricot, et le moment où ce morceau de pomme se retrouve au fond de la cuvette?
Bah, d'abord, ce n'est pas vraiment le morceau de pomme qui se retrouve au fond de la cuvette,
sinon,
y a vraiment un souci. Ça, il y a un souci. Alors, bah, ça dépend des personnes, on peut dire que ça va de 10 heures à 100 heures. Donc si ça met 10 heures, on va dire que votre sel est très liquide. Si ça met 100 heures, on va dire qu'elle est bien moulée, peut-être un peu trop moulée d'ailleurs.
Ça peut mettre 100 heures. Est-ce qu'on peut parler de chorégraphie quand on évoque la digestion ?
Ah bah oui, c'est un vrai spectacle, votre corps. D'abord, toujours votre abricot, votre pomme descend dans l'œsophage. Mmh. Ensuite, va atterrir dans l'estomac, qui est une vraie machine à laver. Donc là, il faut imaginer, ça tambourine, ça part dans tous les sens, ça se secoue dans tous les sens, ça se balance. Mmh. Donc votre pomme commence à être moins fière et à être en petits morceaux. Puis ensuite, ça va passer dans l'intestin grêle, où là, c'est une danse enfiévrée. Votre intestin grêle bouge à toutes ces petites microvillosités qui sont des espèces d'excroissances de la paroi pour en extraire le maximum de votre pomme, donc notamment de l'eau et puis des nutriments. Et puis ensuite, ce qui reste, et ça tombe bien puisque dans la pomme ou l'abricot, il y a beaucoup de fibres alimentaires, c'est pas digéré ni par l'estomac ni par l'intestin grêle, donc ça va dans le côlon, ce qu'on appelle aussi le gros intestin.
Et tout ça, ça fait partie de l'intestin ?
Tout ça, alors le côlon et l'intestin grêle, c'est ce qu'on appelle les intestins.
D'accord.
Voilà. Mais le côlon, c'est la fin de votre intestin, on va dire. Et c'est là où sont surtout les bactéries intestinales qui vont se régaler de ce qui reste de votre pomme ou de votre abricot.
Donc c'est une machine complètement dingue. Il gargouille, il nous crispe, il nous envoie des signaux. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Ah bon ? Ben, on voit ça dans un instant, dans notre curiosité.
Aujourd'hui, nous allons voir comment lutter contre une digestion difficile.
RTL.
Les aliments vont descendre dans l'œsophage et arriver dans l'estomac.
La curiosité est un vilain défaut.
Le reste des aliments arrivera ensuite dans le début de l'intestin, que nous appelons le duodénum.
Avec Anaïs Bouton.
Une bonne digestion nécessite de ne pas être trop stressé et d'être reposé.
Et Thomas Hugues.
14h12 sur RTL, c'est peut-être l'heure de votre digestion. Ça tombe bien, on découvre les charmes discrets de l'intestin dans la curiosité avec Dorothée Vatinel, qui est commissaire de cette exposition Microbiote à la Villette à Paris. Expo construite à partir du livre de ce médecin, cette femme médecin allemande, Julia Ender, sortie en 2014. Vous nous disiez pendant la coupure, 5 millions de livres vendus dans le monde, 2,4 millions en Allemagne et en France.
1,2 million en France.
Donc c'est un pays où ce livre a très bien marché. Et donc, cette exposition et cette expression, c'est vrai que depuis le succès de ce livre, on entend souvent dire l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Pourquoi on dit ça ?
En fait, on utilise ce terme parce qu'il y a des communications entre les cellules nerveuses du cerveau, celles du système digestif et puis les bactéries qui vivent dans notre intestin. Et toutes ces communications jouent un rôle sur le stress, sur la faim ou sur certaines maladies. Il faut savoir par exemple que l'intestin, notre intestin humain, héberge 200 millions de neurones, c'est-à-dire autant que ce qu'il y a que dans le cerveau d'un chat ou d'un chien.
De neurones, c'est-à-dire les petits machins
qui connectent.
De neurones,
c'est-à-dire voilà, les neurones, on les associe au cerveau, bien sûr, mais on a des neurones aussi dans l'intestin.
Incroyable. Et combien de quelle est la longueur de l'intestin ?
Alors, l'intestin fait 7 mètres en moyenne, donc vous avez 5 mètres en moyenne d'intestin grêle et 2 mètres en moyenne d'intestin, de gros intestin, de côlon. Et quand vous mourrez, il est un petit peu plus long, il fait 9 mètres parce que ça se relâche.
D'accord.
Comme le reste. Donc comment l'intestin envoie des messages à notre cerveau ?
Alors là, c'est compliqué. Ouais. Il passe par différents réseaux. Il passe par les réseaux sanguins, il passe par les réseaux lymphatiques, il passe par les réseaux nerveux, bien sûr. Donc là, c'est très complexe. On l'explique dans cette exposition. Du reste, on a essayé d'être clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches sur cet axe intestin-cerveau sont relativement récentes. On voit des liens maintenant qu'il y a entre les deux. On voit par exemple que une personne atteinte de maladie de Parkinson n'a pas un microbiote particulier. Alors maintenant, on ne sait pas si c'est parce qu'il a ce microbiote qui développe cette maladie ou inversement, mais toutes ces recherches sur l'axe intestin-cerveau commencent vraiment maintenant.
Mais quand vous dites que l'intestin a des neurones, ça veut dire qu'il a un système nerveux autonome ?
Oui, alors il a deux systèmes nerveux en fait. Il y a deux systèmes nerveux qui font le lien entre l'intestin et le cerveau. Il y a un très bon exemple qu'on donne dans l'exposition qui est assez technique mais que tout le monde connaît bien, ce sont les sphincters que l'on a dans l'anus. En fait, on a deux sphincters. On a un sphincter interne qui est inconscient, qui est relié au système nerveux inconscient. Et en gros, lui, il y a des selles qui arrivent, il va dire « faut que ça sorte de façon inconsciente ». Et il y a le sphincter externe qui, lui, est conscient, donc est relié au système conscient avec le cerveau. Et là, c'est le cerveau qui dit « non, on est à la radio, on est dans le studio de RTL, ce n'est pas le moment ». Voilà. Donc, on voit très bien, à partir de cet exemple que tout le monde connaît, que notre cerveau est relié de façon consciente et inconsciente avec notre intestin.
Alors, dans l'intestin, il y a ce qu'on appelle le microbiote. C'est d'ailleurs le titre de votre exposition. C'est quoi ? Est-ce qu'on a chacun, là, on est une douzaine dans ce studio RTL de la curiosité, est-ce qu'on a chacun un microbiote particulier ? Comme nos empreintes digitales, d'une certaine façon.
C'est ce que j'allais dire, comme nos empreintes digitales. D'abord, les microbiotes, c'est l'ensemble des micro-organismes que nous avons en nous ou sur nous. Donc nous, dans l'exposition, on parle du microbiote intestinal, c'est-à-dire celui qu'on a dans nos intestins, mais on en a sur la peau, on en a dans nos poumons, on en a dans le vagin pour les femmes. On a des bactéries partout. Et en fait, on est constitué de plus de bactéries que de cellules humaines si on compare le nombre de gènes. Donc en fait, c'est très étonnant, mais nous sommes, nous, un écosystème. Et il faut que nos cellules humaines et nos bactéries, qui font notre propre identité, s'entendent bien.
Quand vous dites microbiote, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale.
Exactement, c'est exact. Le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale, exactement.
Et alors, quand le microbiote va, tout va.
C'est plutôt bon signe, oui. Quand il va, en effet, le corps va bien, les humeurs vont bien. Finalement, c'est ce qu'on essaye d'expliquer avec cette exposition, c'est qu'une fois qu'on comprend ce que c'est que cette flore intestinale, comment elle est constituée et quels sont ses rôles, c'est de prendre soin de lui. Parce que quand on voit l'importance qu'il a sur le cœur, sur le foie, sur le cerveau, sur le bien-être en général, il faut en prendre soin. Et c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment un mode de vie qui est accessible à tout le monde.
Bon, moi j'ai une question essentielle, existentielle à vous poser dans un instant, Dorothée Vatinel, c'est pourquoi on pète ? Eh bien, réponse dans un instant sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
C'est l'aventure intérieure aujourd'hui dans votre curiosité. On fait un voyage dans notre corps et dans notre intestin. Et notre guide, c'est Dorothée Vatinel, qui est commissaire de l'exposition Microbiote, qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie au port de la Villette. Le microbiote, je rappelle, vous nous l'avez dit à l'instant, pour ceux qui nous rejoignent, c'est comme une carte d'identité. Chacun d'entre nous, on a un microbiote, le nôtre, comme nos empreintes digitales. Ça nous différencie les uns des autres. Donc c'est un écosystème essentiel qui est aussi important, comme un circuit aussi important que le circuit sanguin ou le circuit nerveux. C'est ça, dans le corps humain.
Oui, on peut même dire que le microbiote intestinal est considéré par certains chercheurs comme un organe à part entière.
D'accord. Avec ce que vous nous disiez aussi, quand on calcule le nombre de bactéries...
Si on compare nos gènes...
Est-ce qu'on peut donner des chiffres, d'ailleurs?
Alors, on dit qu'il y a environ 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins.
C'est un chiffre beaucoup trop important pour qu'on puisse
Et pourtant, elles sont différentes. On en a des en commun, bien sûr, mais ma proportion est différente de celle de la vôtre.
Vous aviez posé une très bonne question juste avant la coupure, Thomas.
Ma question existentielle, les flatulences, oui. c'est forcément lié à un microbiote ou un intestin qui fonctionne mal ou bien ?
Alors, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire, peux juste vous dire que c'est la faute aux archées, qui ne sont d'autres... Alors les archées sont des micro-organismes qui ne sont pas des bactéries, qui ne sont pas des virus non plus, qui sont d'autres micro-organismes que vous avez dans votre intestin et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Ce qui est amusant, c'est aussi de s'apercevoir que les gaz qui sont créés dans votre intestin, la plupart ressortent par le bas, mais 30% montent dans vos poumons. Par exemple, on peut parfois analyser l'air que vous expirez pour voir si vous avez une intolérance au lactose, par exemple.
C'est aussi simple que ça.
Et alors, quel poids ça a en grammes un microbiote intestinal ?
Alors, grand débat d'experts. Pendant les 2 ans que l'on a mis pour préparer cette exposition, on n'a jamais tout à fait trouvé le bon poids. Alors, je vais vous dire que ça va de 200 grammes à 1,5 kg selon que vous mangez beaucoup de fibres alimentaires ou pas, c'est-à-dire selon que vous nourrissez beaucoup votre microbiote ou pas.
Et ça a quelle taille une bactérie ?
Alors c'est 50 fois plus petit qu'un cheveu en diamètre, c'est assez petit, bien sûr, c'est tout petit. Et si par exemple on pouvait grossir une bactérie à la taille d'une mouche, le virus qui était aussi dans votre microbiote serait à peine plus gros qu'une tête d'épingle, et par contre la levure qui est aussi dans votre intestin aurait la taille d'une vache.
Les bactéries, ce sont nos amis, mais pas que, c'est ça ?
Voilà, alors déjà, il faut... Moi, ce que j'ai appris, et j'étais très étonnée, c'est que simplement moins de 5% des bactéries qui nous entourent dans le monde, dans le studio, chez vous, partout, sont pathogènes. C'est-à-dire que 95% des bactéries sont inoffensives, voire bien pour nous. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Évidemment, il faut avoir peur de celles qui rendent malades. Mais surtout, plus vous êtes en contact avec des bactéries dès votre naissance, mieux c'est, parce que vous avez une flore intestinale extrêmement diversifiée et donc en bien meilleure qualité.
Par exemple, dans le côlon, vous l'avez évoqué mais rapidement tout à l'heure, elles font quoi, les bactéries, dans notre côlon ?
Alors, il y a ce que je disais tout à l'heure, 100 000 milliards de bactéries. Elles ont tout un rôle particulier. Il y a celle, par exemple, qui vient s'installer en début de vie et qui pompe l'oxygène que le bébé a pour faire de la place pour les autres bactéries qui elles sont ce qu'on appelle anaérobies, c'est-à-dire ne peuvent pas vivre s'il y a de l'oxygène. Il y a celles qui vont faire travailler le système immunitaire. Enfin, il y a une complexité et un rôle. Chacun a une vie et pour soi-même, mais aussi par rapport aux autres bactéries.
À quel moment un microbiote s'installe dans l'organisme ?
Eh bien, à la naissance. En fait, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, est totalement stérile. Alors, bon, il y a quelques recherches qui sembleraient dire que peut-être pas tant que ça, mais imaginons un bébé stérile. Au moment où l'enfant naît, ben, il rencontre le microbiote vaginal de sa mère, puis après, son père le prend dans les bras, l'embrasse, la sage-femme regarde si tout va bien. Donc déjà, les premières bactéries de ces gens-là vont vers le bébé. Avec un peu de chance, le chien, en rentrant de la maison, va le lécher. Parfait aussi, on y va pour ces bactéries. Et donc, pendant les trois premières années de sa vie, le bébé va être en contact avec des bactéries et va s'enrichir de bactéries.
Ça veut dire que la naissance par césarienne, ça, c'est un peu plus compliqué ?
Alors, bon, on ne va pas dire ça parce que...
Oui, disons que
certains disent que ça peut avoir une importance, mais comme je viens de le dire, c'est les trois premières années où le microbiote s'installe, donc si ce n'est pas la première journée de la naissance, il reste quand même beaucoup de temps pour le faire.
Bon, on va en profiter pour donner quelques conseils, notamment à propos des antibiotiques. Les antibiotiques, quel impact sur notre intestin, sur ce fameux microbiote ? Réponse dans un court instant sur RTL. Restez avec nous.
Bon, alors, autant vous le dire tout de suite, ce midi, j'ai mangé une choucroute.
Anaïs Bouton.
Une choucroute aux fruits de mer avec les collègues du bureau.
Thomas Hugues.
On s'est dit, ça a l'air excellent, et c'était très bon d'ailleurs, il n'y a rien à dire, sauf que c'était beaucoup trop lourd.
RTL.
Alors, vous l'imaginez, j'ai eu... une après-midi pas très facile.
420 km de bouchons cumulés au pic de la mi-journée. La journée est classée rouge dans le sens des départs.
La curiosité est un vilain défaut.
Demain, en revanche, aucune difficulté à prévoir. La journée est classée verte dans les deux sens.
Sur les mises en onde du facétieux François Touchard avec le message à caractère informatif. Midi choucroute.
Eh ben oui.
Et nous, on est avec Dorothée Vatinel. Et avec Dorothée Vatinel, on aime notre corps. Parce que vous êtes commissaire de l'exposition Microbiote, d'après le livre Le charme discret de l'intestin à la Cité des sciences et de l'industrie. J'ai bon, hein ?
C'est parfait.
On est tout mis dans l'ordre.
Parfait. Voilà, tout mis dans l'ordre. Alors, on apprend beaucoup sur cet organe mal aimé, sur le microbiote. Donc, on parlait avec Thomas de la flore intestinale. Et on se demandait si les antibiotiques attaquaient ou pas le microbiote.
Oui, bien sûr, puisque les antibiotiques tuent les bactéries. Et notre microbiote, ce sont des bactéries principalement. Donc forcément, oui. Après, c'est pour ça que c'est très important de prendre des antibiotiques que quand on ne peut pas faire autrement. Donc par exemple, il faut savoir que les rhumes en hiver sont principalement provoqués par des virus. Donc pas la peine de prendre des bactéries.
Des antibiotiques, pardon.
Oui. Si, en revanche, il vous faut des antibiotiques parce que c'est nécessaire, il vaut mieux prendre des antibiotiques à spectre étroit. Plutôt qu'à spectre large qui tuerait des bactéries qui n'ont rien fait.
Voilà.
Après, il ne faut pas s'inquiéter. Notre microbiote est ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de prendre les antibiotiques, il a la bonne idée de se reconstituer tout seul, mais évidemment, pour ça, il faut l'aider en mangeant bien.
Et en mangeant peut-être de la choucroute, justement. Midi choucroute, ça peut être une bonne idée. Pourquoi ?
Midi choucroute, midi yaourt, tout.
Parce qu'on n'arrête pas de nous parler là en ce moment des probiotiques.
C'est dire nous bassiner. J'ai bien entendu bassiner qui arrivait là.
Oui, il y avait bassiner. Alors, probiotiques, alors, choucroute, kimchi coréen, oula, yaourt, qu'est-ce que c'est que tout ça ?
Les probiotiques.
Alors, d'abord, il ne faut pas confondre prébiotiques et probiotiques. En fait, on va dire les choses un petit peu différemment. Vous avez des bactéries dans votre intestin qui, grâce auxquelles vous allez bien. Il faut donc les entretenir. Il y a deux façons de les entretenir. Soit vous leur donnez à manger des choses qu'elles aiment. Vous les nourrissez, et là, c'est ce qu'on appelle, vous les nourrissez avec des prébiotiques.
Alors c'est quoi ? Quel type d'aliments ?
Eh bien, c'est des aliments principalement où il y a des fibres alimentaires, puisqu'elles ne sont pas digérées avant d'arriver au côlon, et c'est là où habitent surtout les bactéries dans le côlon.
Prébiotiques, c'est-à-dire ail, poireau, asperge, c'est
exactement,
ça ?
Lentilles,
bon,
framboises, lentilles, d'ailleurs dans l'exposition, vous verrez, il y a un élément d'exposition qui vous propose de choisir les bons fruits et les légumes, et les bons aliments pour arriver à 30 grammes de fibres alimentaires par jour. C'est ce qui est recommandé pour que votre microbiote aille bien.
Donc ça
c'est ce qu'on appelle les prébiotiques.
Et les probiotiques.
Et les probiotiques, là, vous mangez des bactéries vivantes qui vont ensuite s'installer chez vous. dans votre ventre. Mmh. Et ça, c'est dans tout ce qui est plat fermenté. Donc, évidemment, la choucroute, mais aussi les yaourts, des fromages d'hiver, la sauce soja, des aliments fermentés, du lassis, des conserves en saumure traditionnelle, des choses comme ça.
Bon, alors, on a encore plein de petites questions vie quotidienne liées à cette exposition.
Vous adorez ça.
Pourquoi on a besoin, ou c'est une bonne idée, de prendre un petit tabouret qu'on se met sous les pieds quand on va aux toilettes?
Alors ça, c'est très simple. C'est une histoire de lasso.
De lasso?
Oui, parce qu'en fait, le muscle en serre la fin de votre intestin comme un lasso. Mmh. Et donc, quand on est debout, ce muscle forme un coude dans l'intestin. Et en gros, ça empêche le passage.
Okay.
Quand vous êtes assis avec un tabouret ou quand vous êtes accroupi, c'est la
sous
même chose.
Hein, sous
sous les pieds,
c'est ça.
En fait, comme quand on est dans les toilettes turques, ou comme si on était accroupi, ou comme si quand on va faire nos besoins
ça
dans la nature,
le lasso.
On se met dans une position qui fait que le lasso se détend et notre muscle est bien à la verticale et de fait, la crotte tombe plus facilement.
Mais vous allez vous détendre du lasso, comment
On va y retourner, oui. Hein, de notre deuxième cerveau, avec l'asso et tous les autres accessoires, c'est promis. Restez avec nous sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est avec Dorothée Vatinelle et on écoute notre corps pour l'exposition Microbiote, d'après le best-seller Le charme discret de l'intestin. Une exposition que vous pouvez voir à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette du 4 décembre au 4 août 2019. Alors, il y a des nouvelles techniques incroyables pour soigner les gens. Ça s'appelle de la transplantation fécale.
Voilà, alors. On peut dire transplantation fécale, on peut dire aussi greffe d'organes, ça fait un peu moins peur, mais c'est la même chose, puisque le but est de donner, dans un cas extrêmement précis, quand il y a une méchante bactérie qui s'appelle Clostrophyllum difficile et qui provoque une maladie.
Peur,
exactement, ouais. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on lui a donné d'ailleurs. Et en fait, elle rend la vie infernale aux malades, à ces malades, et donc il faut qu'ils changent de microbiote. Ça veut dire qu'on enlève leur microbiote, donc on les nettoie complètement par beaucoup d'antibiotiques, on en parlait tout à l'heure, ouais. Et un antibiotique au point de tuer tous leurs microbes qui sont en eux, pour leur en apporter d'autres, un ensemble de microbes, donc un microbiote de quelqu'un de sain.
Mais c'est pour ça que l'hôpital Saint-Antoine, il y a quelques jours, avait lancé un appel, on pouvait envoyer ses crottes et récupérer 50 euros, c'est ça?
Oui, alors, enfin, on n'envoyait pas ses crottes, enfin, il fallait suivre un protocole, et évidemment, c'était pas pour faire des greffes comme ça, c'était pour continuer ses recherches.
D'accord.
Cette thérapie est déjà appliquée, hein, elle marche très très bien, mais pour le moment, elle n'est appliquée que dans ce cas de maladie. Mais c'est la porte ouverte, ça montre bien les perspectives de thérapie à venir à partir de microbiote, c'est fascinant, vraiment fascinant.
On change son sang, mais on va pouvoir aussi changer sa flore.
Alors
en fait.
Oui, c'est un peu exactement le parallèle est bon. En revanche, attention, on voit sur internet des tutos de transplantation fécale à faire soi-même. Il ne faut pas le faire, il faut le faire que dans un milieu médical, ça peut être très dangereux. Considérez ça comme une greffe d'organes.
D'accord.
Le message est passé, merci beaucoup.
Le message est passé, merci Dorothée Vatinelle d'être passée dans notre cabinet de curiosité, sans jeu de mots. Ouais. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition Microbiote, d'après le charme discret de l'intestin à la Villette, à Paris, Cité des sciences et de l'industrie, monsieur Touchard, qui me grondait.
Notre réalisateur François Touchard. Merci beaucoup, à très bientôt sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.